Radio Starbucks.
Morning edition from NPR
News.
France Inter. Le 18-20.
Il y a bien sûr une opposition en Turquie. Et si nous n'avons pas encore plongé complètement dans le fascisme, c'est bien parce que les forces de gauche de l'opposition sont mobilisées.
Et justement, à quoi elle ressemble l'opposition dans un pays comme la Turquie qui va voter à la fin du mois pour ses municipales? C'est dans un irréductible village, non pas gaulois, mais kurde, que je vous emmène. Et vous allez voir, c'est étonnant. Sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Sibérie, au Kenya notamment. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce avec cette histoire de combinaison spatiale qui n'est pas unisexe. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et à 2 mois, tout pile, des élections européennes, de quoi va-t-on parler à votre avis? Eh bien, sûrement de tout sauf d'Europe. Mais avant, allons au Yémen, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Ça commence, on s'en souvient à peine, avec des militaires loyalistes à l'ex-président Salé qui attaquent l'aéroport d'Aden. Et puis la date qu'on retient, c'est la nuit du 25 au 26 mars 2015. Une coalition Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis qui frappe pour la première fois les rebelles houthistes. Voilà le démarrage de cette guerre au Yémen qui a désormais 4 ans d'enjeux de pouvoir, en guerre contre l'Iran interposée, en vente d'armes, y compris nos armes. Nous les Français, nous en sommes à une catastrophe humanitaire à bas bruit, comme on dit pudiquement, parce qu'on en parle si peu, ici régulièrement, heureusement, dans Un jour dans le monde, mais avec toujours aussi peu d'avancée au fond dans ce qu'on a à en dire. Bonsoir Franck Mermier.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste notamment du Yémen, évidemment. Vous avez écrit « Yémen, écrire la guerre » et c'est publié chez Classique Garnier. On rejoindra au téléphone tout à l'heure Habib Abdulrab Saori, qui est écrivain universitaire et qui est yéménite. Franck Mermier, d'abord, 4 ans de guerre, est-ce qu'on peut en dire plus aujourd'hui qu'on en a dit au fond l'année dernière à la même période, ou il y a 6 mois, ou il y a encore d'autres temps? On parlait de négociations, on en est où? On a l'impression d'un surplace désespérant dans ce pays, en fait.
C'est vrai qu'il y a eu un fol espoir, si on peut dire, qui est né grâce du fait des négociations de Stockholm en décembre 2018. Donc
les accords d'Odeida,
devaient justement aboutir à une trêve à Odeida. Il y a donc une trêve a été effectivement mise en place, mais cette trêve n'a pas été respectée. On voit là, il y a quelques jours, il y a encore des bombardements intensifs. Auparavant aussi, il y a eu des accrochages. Et puis, sur d'autres fronts aussi au Yémen, il y a également des combats. Donc, les accords de Stockholm, n'ont pas permis de mettre en place un véritable processus de paix entre les différentes parties.
Est-ce qu'on peut dire à cause de qui ou même pas, en fait?
Alors, c'est difficile, évidemment, de cibler des responsabilités dans le fait que, je pense que il y a quelque chose de structurel dans cette guerre qui fait que il y a deux pouvoirs qui s'opposent. Hein. Il y a le pouvoir des houthistes à Sanaa contre le président Hadi, qui lui est reconnu internationalement et qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mm-hmm. Et tous les deux camps, en fait, réclament la légitimité, revendiquent une légitimité, et donc ils ne vont pas effectivement cesser les combats sans avoir obtenu d'une certaine façon gain de cause.
Objectivement, les espoirs étaient modestes de toute façon à ce moment-là. Qu'est-ce qui aurait pu faire basculer dans le camp de la paix, honnêtement?
En fait, il y avait aussi des mesures qui auraient pu être prises et peut-être qu'elles seront prises dans le proche futur, qui étaient l'échange des prisonniers. Il y a 15 000 prisonniers des deux camps qui auraient pu être échangés. Ça aurait été quelque chose de positif, comme signal positif, même pour la population yéménite. Et puis aussi, ça concerne aussi le volet humanitaire et politique, évidemment, c'est la levée du blocus sur l'aéroport de Sanaa et sur aussi le port de Hodeïda, où quand même transite une grosse partie de l'aide humanitaire.
Alors, je vais vous demander, de ce point de vue-là, est-ce que l'aide humanitaire arrive à passer mieux? Parce que ce que j'ai cru comprendre aussi quand même, c'est que même si vous le disiez, les tirs ont continué, les raids aériens sont quand même moins importants qu'ils ont pu l'être à l'une période. Donc, est-ce qu'au moins, on peut dire aujourd'hui que la population ne meurt plus de faim, en tout cas pas au même degré qu'on en parlait encore il y a 6 mois, il y a 8 mois, ou pas?
Alors, le sujet de la famine au Yémen est très complexe, parce qu'effectivement, il y a une famine, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui meurent de faim, et puis il y a aussi des supermarchés qui sont remplis à Sanaa. Donc il y a par rapport à l'aide humanitaire, par rapport aux importations qui arrivent au Yémen aussi, disons, un commerce qui est fait, et on sait qu'il y a plusieurs tonnes de blé qui ont été par exemple bloquées dans le port de Hodeïda, qui n'ont pas pu être distribuées. Je crois que ça vient d'être fait récemment, et donc il y a aussi une économie de guerre qui s'est installée et qui profite également de cette situation catastrophique terrible qui ravage le pays.
Franck Mermier, on a cru à un moment que l'assassinat de Khashoggi au consulat de Turquie, donc le Saoudien, sur ordre apparemment de l'Arabie Saoudite et même peut-être du prince Salman, obligerait justement le prince Salman à faire profil bas, y compris sur le Yémen. On a pensé à un moment que le point de basculement, ça pouvait être celui-là. Est-ce que ça l'a été quand même un peu, ou est-ce qu'on a complètement oublié cette affaire finalement et qu'elle n'aura eu aucun impact?
On peut dire que l'accord de Stockholm en décembre 2018, c'est un peu la paix de Khashoggi, même cette paix n'a pas été mise en place complètement jusqu'à maintenant. Effectivement, il y a eu des pressions internationales très fortes sur l'Arabie Saoudite pour qu'il y ait finalement qu'il lâche du lest et que des négociations aient lieu. Mais aussi de la part des Houthis, c'était une façon aussi de lever le siège un petit peu de Hodeida, où ils étaient en très mauvaise posture. Donc il y avait une bataille qui se profilait qui aurait pu être extrêmement négative pour les Houthis.
Est-ce que la trêve, non, il n'y a pas vraiment eu de trêve. Est-ce que le fait que les tirs se soient calmés, que les choses soient un peu différentes, notamment autour de Deida, à relancer le conflit ailleurs, dans d'autres poches. Est-ce que c'est ça aussi l'une des difficultés? C'est une espèce de vase communicante, le conflit se déplace ailleurs dans le pays, finalement.
Oui, la guerre n'a jamais cessé, même pendant les quelques mois de trêve, entre guillemets, à Hodeïda. Il y a eu notamment, dans la région de Hadja, au nord, une avancée des forces houthis, donc proches de l'Arabie Saoudite, qui ont maté une insurrection tribale. Il y a aussi d'autres combats dans d'autres régions du Yémen, notamment autour de la région de Taez, qui est toujours encerclée par les houthistes. Donc on peut dire effectivement que les avancées militaires sont extrêmement faibles, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une espèce de front gelé au Yémen.
Parce que je vous pose la question, parce qu'on a tendance à résumer les choses un peu vite en disant voilà, il y a les Houthis au nord et puis il y a le sud avec les forces loyales à Hadi, en gros. Est-ce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, que ce partage entre nord et sud?
Oui, c'est très compliqué, parce qu'en fait les forces de Hadi sont... Les forces loyalistes, sont composites. Le camp de Hadi est extrêmement affaibli par ces 4 ans de guerre. En fait, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis devaient remettre Hadi au pouvoir à Sanaa. En fait, ils ont affaibli son pouvoir, notamment les Émirats Arabes Unis, qui ont joué un rôle extrêmement étrange dans cette guerre, en favorisant notamment des milices séparatistes sudistes dans le sud, qui, en même temps que l'on voit en plus combattre sur le front de Hodeïda.
On va se retrouver évidemment dans un instant. Je voudrais qu'on passe la parole à Habib Abdulrab Sarori. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes yéménite, vous êtes écrivain, vous êtes universitaire. Une chose d'abord, vous qui êtes yéménite, je voudrais savoir, est-ce que vous avez encore des contacts à l'intérieur? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de ce qu'est ce pays? On va y venir, on a l'impression que c'est aussi une guerre sans visage, puisque c'est une guerre sans réfugiés, au fond, où tout le monde est plus ou moins enfermé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on sait, quand on est comme vous, yéménite, de ce qui se passe à l'intérieur?
En fait, oui,
ou est-ce que c'est rien
permanent et journalier? La situation, comme vous le savez, comme vous l'avez dit au départ, elle est vraiment plus hautement tragique, désespérante, parce qu'on est dans une impasse. Tout serait bête. Il y a 4 ans, tout le monde parlait de la montagne Hadid au milieu d'Aden qui brûlait. Un an après, les Houthis avec Saleh étaient au milieu du Sanaa en train de scander des slogans pour Saleh. Et puis Saleh, maintenant, il est dans une morgue, dans un frigo d'hôpital. Enfin, la situation est compliquée. Mais en fait, depuis 2 ans, c'est un statu quo tout le monde tourne autour du même... Le rapport de force est quasiment le même. Et les gens, le pays se disloque. Les gens vivent... Il y a des problèmes supplémentaires. 4 ans après, dans un pays pauvre, les mariages des enfants... donc, ça a augmenté d'après les Nations Unies. Parce qu'en fait, la pauvreté oblige des familles à vendre leurs enfants, qui vont travailler comme des servantes chez des familles où le mari est vieux, la mort des cadres ou des classes moyennes qui n'existaient pas avant parce qu'ils sont incapables d'acheter des médicaments, 3 ans après son salaire. Donc il y a plein de problèmes supplémentaires qui s'ajoutent, la situation, plus les problèmes de famine, des maladies que vous connaissez.
Je parlais tout à l'heure d'une guerre sans visage, parce que c'est aussi une guerre sans réfugiés. Au fond, c'est peut-être ça la différence entre ce conflit et d'autres autour. On ne le voit pas, on ne rentre pas, on ne voit pas les gens sortir. On a l'impression de quelque chose qui se passe sous une cloche, en fait.
Oui, mais en fait, comme vous savez, la situation du Yémen géographique n'est pas fameuse, parce qu'en fait... sortir du Yémen, donc c'est une aventure périlleuse. Et maintenant, même Oman construit un mur pour empêcher les Yéménites d'arriver, les pays voisins ne reconnaissent même pas la notion de réfugié. Donc, vivre au Yémen, c'est vivre dans une prison à ciel ouvert.
Est-ce
tout
que vous...
récemment, il y en a qui ont réussi à partir, mais ils sont en train de mourir près d'Algérie. On n'en parle pas beaucoup. Il y a un journaliste qui est mort il n'y a pas longtemps, en essayant de fuir pour aller en Espagne. Il y en a ceux qui arrivent à sortir via Djibouti ou par d'autres chemins, mort énormément ces jours-ci.
Est-ce que cet espoir dont on parlait tout à l'heure avec Franck Mermier, est-ce qu'à l'intérieur, cet espoir, il a vraiment existé? Est-ce qu'on a cru dans la population au Yémen réellement qu'il pouvait se passer quelque chose, qu'une trêve était possible et qu'une fin de guerre même était envisageable au moment des accords de Stockholm?
Au moment des accords de Stockholm, je ne crois pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de confiance entre les belligérants. Ça, tout le monde le savait. Mais il y a 2 ans, où à un moment donné, on croyait que le rapport de force des forces alliées, c'est suffisamment fort pour essayer d'arrêter les butchistes. Il s'est avéré qu'ils sont affaiblis, comme disait Franck Mermier, plus incompétents, parce que maintenant, il y a même des déclarations comme quoi ils sont contents d'avoir résisté 4 ans, comme si c'est eux qui résistent, alors que c'est un petit peu l'opposé. Les Houthis, comme disait Franck, ou comme je le dis, c'est un groupe de milices racistes, donc ils vont ramener le pays vers l'imamat, vers le des familles, donc une centaine de familles qui veulent, au nom de l'appartenance au prophète, dominer le pays, vers un pays... Enfin, c'est l'équivalent du Daesh, mais côté chiite.
Et j'allais y venir avec Franck Mermier, merci beaucoup, Habib Abdulrad. D'abord, effectivement, à quoi ressemble l'adhésion de la population? Et effectivement, qu'est-ce qui est en train de se passer au nord? Est-ce qu'on est en train d'essayer de monter une espèce de poche fondamentaliste, effectivement, aujourd'hui au nord du Yémen? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou
Alors,
pas
il faut savoir que le fondamentalisme au Yémen est extrêmement partagé, à la fois du côté sunnite que du côté chiite, avec justement les houssistes. Dans le même temps, ce qui est très difficile à connaître, c'est l'adhésion de la population au projet houssiste, si on peut dire. Parce qu'après 4 ans de guerre aussi, eux-mêmes ont été confrontés à un régime extrêmement oppressif au nord de la part des houssistes et aussi à la prédation, notamment sur le plan économique. Et de la même côté, de l'autre côté, si on peut dire, aujourd'hui, il y a un désenchantement extrêmement partagé de la part de la population yéménite par rapport aux Saoudiens et aux Émiriens qui n'ont pas tenu finalement leurs promesses pour ceux qui pensaient qu'ils allaient être libérés par leurs soins.
Habib Abdulrad Sarouri donnait la comparaison, disait c'est une sorte de petit Daesh qui s'installe au-dessus. Est-ce que vous le diriez de la même manière?
Alors je dirais pas que c'est un petit Daesh, mais en tous les cas, c'est un mouvement fondamentaliste chiite qui se rattache au schisme politique que l'on voit au Liban avec le Hezbollah ou avec l'Iran. Et d'ailleurs, ils sont alliés. Ils sont alliés. C'est pour ça que c'est ce qui a conduit à l'intervention de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Et dans le même temps, c'est effectivement un mouvement fondamentaliste chiite dans le sens où ils ont des pratiques idéologiques extrêmement dures et ils embrigadent la population et actuellement, ils mobilisent aussi les enfants pour aller sur le front.
Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, ce sera la dernière question Franck Mermier, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que quelque chose peut bouger, qu'une ligne peut bouger, que quelque chose se passe dans ce pays au fond?
Alors, il faudrait effectivement que d'une certaine façon, les Yéménites eux-mêmes prennent en charge leur destin, si on peut dire, parce que ils sont devenus en fait les jouets de puissances extérieures, à la fois l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, et effectivement, cette marge de liberté-là est très très faible, mais il est vrai aujourd'hui que à moins qu'il y ait un retournement du rapport de force, il semblerait que la guerre va encore durer assez longtemps.
Et est-ce que la communauté internationale, selon vous, va à un moment faire d'autres efforts aussi? Enfin, il y a eu la polémique sur les ventes d'armes, elle n'est pas finie cette polémique sur les ventes d'armes, il y a très peu de pays au fond, et certainement pas nous, qui ont cessé de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce que là aussi, il y a une indifférence de la communauté internationale, toujours quelque chose qu'on a déploré depuis le début de ce conflit au fond?
Il faut bien voir que les pays occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ont délégué le problème yéménite à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Il faut effectivement qu'il y ait aujourd'hui une pression des opinions publiques sur leur gouvernement pour que la question yéménite ne soit pas oubliée, mais revienne sur le devant de la scène parce qu'on est en face à une catastrophe humanitaire extrêmement sérieuse au Yémen.
Franck Mermier, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Merci à Habib Abdulrad Sarouri aussi d'avoir été avec nous. Merci mille fois à tous les deux.
France Inter, Fabienne Synthèse,
Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Turquie avant les municipales à la fin du mois. Je vais vous emmener dans un village d'irréductibles kurdes et vous allez voir ce qui s'y passe. C'est étonnant. Sous les radars et Amélie Perrier avec le meilleur prof du monde. Il est prof de maths physique. Il est au Kenya. La chronique pour tous de Julia Foyce. Julia, bonsoir.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir tout le monde.
On a un peu dévoilé ça. On va parler fringues.
Ouais, on va parler combi.
On va parler combi. J'adore. Ça nous va comme un gant.
C'est pas forcément hyper sexy.
Le monde à l'envers. Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous.
Deux mois pile. Alors tiens, puisqu'on parle d'anniversaire, 26 mars, 26 mai, avant les élections européennes. Et vous êtes sûr qu'on parlera d'Europe?
Eh bien, c'est ça la question. Est-ce que la grande absente des européennes ne pourrait pas être l'Europe? Et là, on se dit qu'il y a un truc qui tourne par rond.
Allez, bah tiens, ce qui tourne, en revanche, toujours, c'est la planète. Et c'est pas fini, notre petit tour. Il passe par le Brésil avec Saulo Duarte. J'imagine que je le prononce n'importe comment. Slor do Sono sur France Inter. Ça se passe, je dis donc de l'autre côté de la vitre, mais en vrai ça se prononce comment? Et j'entends dans mon casque, eh ben j'en sais rien du tout. Bien. Il s'appelle Saulo Duarte, je crois. Flor do Sono, c'est un Brésilien sur France Inter.
Quel bel accent.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie le capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Eh, on n'est pas aidé, hein. Amélie Perrier, quel est le meilleur prof du monde? Un concours vient de l'identifier, dites-moi.
Le Global Teacher Prize vient de sacrer Peter Tabichi, un Kenyan meilleur enseignant du monde. Il a 36 ans, il est prof de maths et de physique dans le village de Pwani, une zone reculée de la vallée du Rift au Kenya, reculée et très pauvre. Peter Tabichi est enseignant, mais aussi frère de l'ordre des franciscains. Cela explique certainement son engagement total pour les écoliers. Il reverse 80% de son salaire à l'établissement pour payer des uniformes, des livres et des repas à ses enfants qui arrivent souvent le ventre vide en classe. Là, il dit, quand ils arrivent à l'école, ils ne peuvent pas se concentrer, surtout parce qu'ils n'ont pas assez mangé à la maison. Et la région connaît des famines tous les 3 ou 4 ans. Alors, pour combattre l'insécurité alimentaire, le plus gros souci, eh bien, ce professeur donne également des leçons aux familles pour cultiver des végétaux qui ont besoin de très peu d'eau. Voilà une leçon auprès des familles. L'autre défi dans la région, ce sont les rivalités entre les différentes ethnies. Dans cette école, 7 tribus sont représentées. Le professeur Tabichi a décidé de créer un club de la paix. En fait, c'est une équipe de foot où tous les enfants jouent ensemble. Et tout cela fonctionne. Les enfants gagnent des concours scientifiques.
Alors voilà, une élève qui dit notre projet c'était de créer de l'électricité, du courant électrique à partir d'extraits de plantes et des eaux usées. Et l'élève y est arrivée. L'enseignant, avec ce concours financé par une fondation philanthrope, vient de remporter $1 million. Il n'aura pas de mal à les dépenser dans son école où aujourd'hui il n'y a qu'un seul ordinateur et 58 élèves par classe.
Au Royaume-Uni, Amélie, on tire un trait sur la philanthropie.
Ah oui, là, sur les dons d'une famille pourtant très généreuse, la famille Sackler. Depuis un mois, les institutions culturelles comme la National Portrait Gallery annoncent rejeter les dons de leur fondation. Dernière en date, le prince Charles. Hier, sa fondation The Prince's Trust pour l'accès à l'éducation et au travail des plus démunis a annoncé qu'elle n'accepterait plus l'argent des Sackler. À New York, le musée Guggenheim a fait de même avec un communiqué le week-end dernier. Et là, vous entendez « Shame on Sackler », honte sur les Sackler. Ici scandé par l'artiste Nan Goldin et une centaine de manifestants au Met à New York. Mais pourquoi sont-ils les nouveaux parias, les Sackler? Eh bien, parce qu'ils sont les propriétaires des laboratoires Purdue Pharma, qui distribuent un antidouleur très controversé, l'oxycontine. Or, ce médicament est accusé d'être hautement addictif. Des malades deviennent accros. 2,5 millions d'Américains sont aujourd'hui dépendants. Cette crise des opioïdes, décrétée urgence de santé publique par Donald Trump, tuerait une centaine de personnes par jour. La Fondation Sackler officialise donc l'arrêt de son mécénat. Pas suffisant pour Nan Goldin, que l'on vient d'entendre. Elle a souffert, elle, d'une addiction à l'oxycontine. Elle aimerait que leur argent serve à payer des dommages et intérêts aux malades dépendants.
Allez, Amélie, on retourne en Sibérie pour terminer. On y était hier avec ce concours de BAF. Mmh. D'autres habitants de la région ont trouvé des occupations, disons, plus utiles.
Oui, et cette fois, c'est dans l'Altaï, l'ouest de la Sibérie. Un parc national a décidé de recruter des anciens braconniers pour sauver les léopards des neiges. Mergen Markov était un chasseur de léopards. Il nourrissait sa famille comme ça, car, dit-il, il n'y avait pas de travail là-bas. Il y a 4 ans, le Fonds mondial pour la faune sauvage a donné une chance à 6 braconniers de devenir les garants de ces animaux rares.
Et
voilà un responsable du Fonds mondial. Ils connaissaient déjà leurs habitudes, disent responsables, leur parcours, leurs traces. C'était plus facile de leur confier des appareils photos avec des capteurs de mouvement et des incitations financières pour garder les léopards des neiges en vie. Alors le pari est gagnant, hein. La population de panthères blanches repart à la hausse. Les anciens braconniers comme Mergen Markov tiennent ce genre de propos. On va pouvoir nourrir tellement de léopards, même mes petits-enfants pourront les voir un jour. Si ce projet, dit-il, n'avait jamais existé, les léopards auraient totalement disparu. Voilà, ça ressemble un petit peu à un conte russe, mais...
Léopard blanc, russe blanc, même combat.
Exactement, vous avez fait le lien.
C'est beau, non?
Ouais, c'est
J'ai
pas
bien
mal.
Compris tout ce que vous m'avez dit, du coup.
Ah bah tant mieux.
Vous revenez demain quand même.
Avec plaisir.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Turquie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, la Turquie qui vote pour les municipales. Ce sera à la fin du mois, on en reparlera forcément. Des élections qui d'ailleurs verront, sans doute et sans surprise, le parti du président Erdogan rafler la mise, garder Istanbul, prendre Ankara. Mais ce scrutin, c'est aussi l'occasion d'aller dans une sorte de village d'irréductibles, non pas gaulois, mais kurdes. Bonsoir Alexandre Billette.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alexandre, vous nous emmenez dans un bastion de l'opposition, une région bien particulière dans l'est du pays, la région de Tunceli, que les habitants préfèrent appeler Dersim, c'est son nom en kurde, et la distinction, évidemment, est importante, c'est ce qu'on voit dans votre reportage.
C'est la dernière ligne droite avant l'élection municipale, l'heure des derniers discours. Devant la foule aujourd'hui, l'un des candidats qui pourrait l'emporter dans la ville de Dersim. Et ce candidat, c'est Fatih Maçoğlu, candidat communiste, déjà maire d'un gros village et qui tient un discours parfaitement révolutionnaire.
Les gens ont pris conscience que le communisme et le socialisme pouvaient apporter des solutions. Dans ce contexte, l'exemple de notre village constitue un espoir aujourd'hui pour tout le pays.
Alors comment peut-on être candidat communiste en Turquie en 2019, dans un régime de plus en plus autoritaire, conservateur, néolibéral et islamiste? Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre cette région, un fief de l'opposition, une région montagneuse du sud-est de la Turquie, une région kurde, très à gauche.
«
une région où l'appel à la prière est enterré aujourd'hui par la musique de campagne du Parti communiste. Car même si les mosquées sunnites sont présentes comme partout dans le pays, elles sont bien vides. Dans cette ville majoritairement alévi, c'est une minorité en Turquie, 20% de la population. L'alévisme, c'est une philosophie. Certains disent que c'est une branche très libérale de l'islam chiite. Et la population alévi a été longtemps persécutée, comme l'explique Hüseyin Ayrılmaz, responsable d'un journal local.
L'alévisme, c'est une manière de vivre. Si on en parle comme d'une religion, on risque de la réduire à une certaine interprétation de l'islam, alors que c'est un mode de vie, une philosophie, une culture. Et l'État le sait bien. C'est pour ça qu'il s'acharne sur cette région depuis des années. C'est justement cette identité que l'État a voulu éliminer. Et c'est pour cela qu'il a tenté d'assimiler la population alévi.
Une spécificité culturelle donc qui imprègne l'atmosphère de Dersim, mais une spécificité qui se reflète également dans les sensibilités politiques. Le communisme n'est pas la seule idéologie de gauche à avoir pignon sur rue ici. Il y a le café Cuba, les posters de Che Guevara, mais aussi celle du commandant Marcos qui sont affichés un peu partout. Un bastion très à gauche au milieu de l'Anatolie conservatrice et qui dérange le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, comme l'explique Serkan, il est libraire au centre-ville de Dersim.
Dersim est une ville socialiste, tous les révolutionnaires s'y retrouvent. Che Guevara est une figure importante ici. En Turquie, vous trouverez très peu d'endroits qui affichent autant de ses portraits. La police est déjà venue quelquefois dans ma librairie. Ils sont arrivés à 8 ou 10 avec des caméras. Ils ont fouillé les étagères, les livres. C'est aussi arrivé qu'ils me confisquent des livres. Ils avaient une liste d'ouvrages interdits. Et ils m'ont convoqué au tribunal en me disant « Tu expliqueras cela au juge ».
Pour les élections de dimanche, le match devrait se jouer entre le candidat communiste et la gauche pro-kurde du parti HDP, dont les militants sont souvent accusés de soutenir le terrorisme du PKK. Dans le local de campagne du HDP, pourtant, la candidate à la mairie, Nurşat Yeşil, est malgré tout optimiste.
Il y a bien sûr une opposition en Turquie. Si l'AKP n'est pas parvenu à accomplir tout ce qu'ils avaient prévu, et si nous n'avons pas encore plongé complètement dans le fascisme, c'est bien parce que les forces de gauche de l'opposition sont mobilisées. Les dirigeants vont et viennent, mais il y a toujours de l'espoir. L'opposition existera toujours.
Il y a toujours de l'espoir, mais aussi un risque. Ces dernières années, 95 maires d'opposition ont été soupçonnés de terrorisme, démis de leurs fonctions et remplacés par un administrateur d'État. Un sort que pourrait connaître aussi le futur élu d'opposition de la ville de Dersim.
Alexandre Briette pour le reportage avec Céline Pierre Magnani. Merci beaucoup à vous deux. Et voici Iggy Pop sur France Inter et dans Un jour dans le monde, In the Death Car.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. We'll be right back.
kinda wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car. Joking, it ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. We're alive.
Sa phrase quand même, Iggy Pop sur France Inter. Mesdames et messieurs, Julia Foyce est sur la place.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Julia Foyce est la chronique pour tous. Chaque semaine, Julia, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, bonnes ou mauvaises. On commence donc avec l'objet de la semaine.
C'est une combinaison spatiale. Alors je sais, on en a parlé dans le 18h, mais c'est tellement dingue que je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. Mise au point par la NASA pour des astronautes, elle est ultra perfectionnée, limite intelligente, hein, tellement elle est résistante à toutes les variations atmosphériques. Facile à enfiler, une partie pour les jambes, une autre pour les bras, et hop là, je vous viendrai bien dedans, moi Fabienne, sur la moto.
Eh ben, mais comme un gant, tiens.
Eh ben, sauf que non, parce qu'à vue de nez, vous faites plutôt une taille M, hein, que
ouais,
L.
Vous êtes bien urbaine.
Et que la NASA.
Ça dépend des jours.
La NASA du M, eh ben, elle n'en a plus. C'est donc sur cette éminente argument vestimentaire qu'une mission historique a dû être annulée. Pour la première fois, deux femmes devaient être envoyées dans l'espace ensemble, sauf que c'est ballot, des combis M, il n'y en avait qu'une. L'une des deux astronautes a donc été renvoyée gentiment à la maison, tandis qu'un homme, un vrai, un qui s'habille en L ou en XL, partira bien dans l'espace. La polémique n'a pas tardé, les accusations de sexisme ont fusé, la NASA s'est défendue à peu près comme ça. Sorry, sorry, but on peut pas tout prévoir, c'est sûr, c'est pas comme si on était la NASA, et c'est pas comme si depuis des décennies, les femmes étaient effacées de la conquête spatiale. Alors, pour ceux qui nous écoutent et se disent « Oui, enfin ça va, les combis spatiales, ça reste un public de niche », je dis « Oui, mais en fait, ça va surtout beaucoup plus loin. Avez-vous, Fabienne, déjà entendu parler du Gender Data Gap ?»
Alors, je crois que ça n'a rien à voir avec la marque, non?
Pas du tout. Pas du tout. C'est un concept popularisé tout récemment par une journaliste britannique, Caroline Criado-Pérez, dans son dernier livre « Invisible Women », où elle démontre comment les femmes sont invisibles au sens où elles ne sont tout simplement pas prises en compte dans les banques de données, les fameuses « data » qui nous environnent. Tous les objets et les services du quotidien sont conçus, en tout cas pour la plupart, à l'aune d'une sorte de maître étalon que serait l'homme blanc de 25, 30 ans et de 70 kilos. C'est à partir de sa morphologie et de son métabolisme qu'on a, par exemple, dessiné les smartphones, toujours un peu trop large pour la peau moyenne d'une femme. Inventer aussi les logiciels de reconnaissance vocale plus performants de 70% avec des voix d'hommes. Ça marche aussi avec les gilets pare-balles, mal taillés pour les policières, les sacs de chantier conçus pour des dos masculins, la climatisation des bureaux et les dangers de produits toxiques. La peau des femmes étant souvent plus fine, on pourrait par exemple relever les seuils de tolérance. Mais non, on ne le fait pas puisqu'on ne le sait pas, ça n'est même pas une question. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui de la sécurité en voiture. Je laisse Caroline Criado-Pérez vous l'expliquer.
On est descendu sur Piccadilly Street, qui est l'une des artères les plus embouteillées de Londres. Il y a énormément de circulation. Beaucoup d'entre nous, femmes comme hommes, conduisent leur véhicule chaque jour. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a une grosse différence entre une femme au volant et un homme au volant. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir des accidents et d'être blessés. Mais si une femme a un accident de voiture, elle a 47% de chances d'être sérieusement blessée et 17% de chances de mourir.
Et pourquoi ? Eh bien parce que les crash tests sont effectués avec des mannequins reprenant les dimensions, le poids, la taille de l'homme standard, en position standard. Les femmes, elles, plus petites en moyenne que les hommes, vont avoir tendance à relever un peu le siège ou à l'approcher du moteur, du volant, pardon, et donc du moteur aussi, c'est vrai. Une déviation par rapport à la norme et au résultat des crash tests qui les rendent beaucoup plus vulnérables aux collisions frontales. À moins, peut-être, hein, Fabienne, je ne sais pas, de mettre une combi de la NASA. Il n'y en a pas pour elle.
Allez, ça bouge quand même, Julia. Parfois, certaines femmes tentent de produire leurs propres données sur des questions qui les concernent directement.
Mais oui, c'est ce que faisait depuis 7 ans le mensuel du Vatican. Femmes, Église, Monde, dirigé et rédigé par des femmes, adossé à l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Il traitait à la fois de questions théologiques et de sujets de société. En février, on y trouvait par exemple un dossier sur les religieuses violées par des prêtres, forcées à avorter ou chassées de la communauté avec leur enfant sous le bras. Un mois plus tard, le mensuel met la clé sous la porte et décisions prises par sa directrice, l'historienne catholique et féministe Lucetta Scarafia, et elle s'en explique dans une lettre au pape rendue publique aujourd'hui. Invoquant un climat de méfiance et de délégitimation progressive, elle accuse la direction masculine de l'Osservatore de vouloir prendre la main sur le mensuel. Les intéressés, bien entendu, s'en défendent jamais. Nous n'avons voulu intervenir, tout au plus avons-nous suggéré des thèmes et éventuellement des experts à interviewer. Mais alors vraiment, pas plus que ça, juré, croix de bois, croix de fer, si je mens, je mets en enfer.
Oh, on ne parle pas de malheur. Allez, Julia, à la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, dans 2 mois tout pile, donc tout 26 mai, nous serons tous invités aux urnes pour les élections européennes et à l'heure où La République En Marche vient de dévoiler sa tête de liste, vous vous interrogez, vous, sur un paradoxe. La grande absente des européennes pourrait bien être l'Europe, et c'est votre monde à l'envers.
Oui, il y a vraiment quelque chose qui cloche quand même. Tout se passe comme si dans les 27 pays de l'Union, il y avait 27 scrutins régionaux, chacun dans son coin, chacun avec sa campagne, ses sujets, ses querelles. Et à chaque élection européenne, c'est le même topo. Vous voulez un exemple ? Mm-hmm. Eh bien la France, à 2 mois du vote, nous restons en grande partie polarisés sur les gilets jaunes et le grand débat national, où l'Europe n'a aucune place, sauf à se faire caricaturer. À 2 mois du vote, tout se passe comme si, une fois de plus, l'enjeu était de savoir si les Français vont ou pas sanctionner le pouvoir en place, vont ou pas porter en tête le parti du président, ou à l'inverse, un mouvement d'opposition, en l'occurrence le Rassemblement National. C'est le sujet des sondages d'intention de vote. À 2 mois du scrutin, ce sont donc les questions de politique intérieure qui dominent la campagne. Sauf que, pardonnez-moi le raccourci, mais c'est secondaire, tout simplement parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est la composition du Parlement européen, les équilibres politiques européens qui sortiront des urnes des 27 pays, et c'est tout. Ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, mais c'est ça le sujet. Donc vivre et présenter les européennes par le spectre des égoïsmes nationaux, c'est faire délibérément une erreur sur la marchandise.
Voilà, mais sauf que tout le monde sait, Jean-Marc, que l'Europe, ça paraît loin.
Mais c'est quand même fou parce que l'Europe, c'est ici même. Alors pourquoi ça paraît loin ? Alors la responsabilité est sans doute triple. 1, la technocratie bruxelloise ne fait pas grand-chose pour se rendre accessible. 2, les politiques sont nombreux à utiliser l'Europe comme un bouc émissaire un peu facile. Et 3, les médias, les grands journaux télévisés français en particulier, ne s'intéressent pas à l'Europe. Une étude récente de la Fondation Jean Jaurès est édifiante à ce sujet. Résultat, toutes les enquêtes le démontrent, les Français sont parmi les plus ignorants, avec les Grecs, de l'action des députés européens. A l'inverse, les Finlandais, les Suédois, les Allemands sont très au fait des décisions de l'Union. Et franchement, c'est assez injuste parce que l'Europe a plein de défauts, on le dit souvent ici même. Mais son bilan n'est pas nul. L'euro, la politique agricole, Erasmus, la Cour européenne de justice et même des décisions plus récentes de la dernière mandature, la protection des données personnelles, la limitation des sacs en plastique, je sais pas moi, la transparence des commissions bancaires. Aujourd'hui même, la réforme du droit d'auteur, c'est quand même du concret. Et en plus, le travail du Parlement de Strasbourg a quelque chose d'exemplaire. Il règne là-bas une culture du compromis qui fait honneur à la démocratie. Au Parlement européen, les majorités sont de circonstance, elles se font et se défont selon les sujets, techniquement, et les discussions transparties sont permanentes. C'est un peu l'inverse de notre pratique parlementaire à la française, avec ses effets de manche, vous savez, ses querelles stériles et ses postures idéologiques.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se décide à parler Europe dans une campagne pour les européennes ?
Alors d'abord, une chose, c'est qu'on y aurait quand même intérêt, parce que le futur Parlement aura plus de pouvoir pouvoir institutionnel que le précédent, notamment sur la désignation du poste clé en Europe, président de la Commission. Ensuite, seule l'Europe possède la taille critique pour peser sur les trois sujets cruciaux identifiés par les électeurs européens eux-mêmes, c'est-à-dire l'immigration, l'environnement et l'emploi. Et puis on peut ajouter la capacité à peser sur les grands dossiers diplomatiques et commerciaux face à la Chine ou aux États-Unis. Et là, sans grand budget d'investissement européen, on ne pèsera pas. Mais pour répondre à votre question, comment se sentir européen lorsqu'on met le bulletin dans l'urne? Ben, la clé, c'est quand même celle de listes transnationales. C'est un serpent de mer, on en parle depuis 40 ans. Cette fois-ci, la France, pour une fois pas trop égoïste, a essayé de relancer l'idée, mais l'Allemagne et les pays du groupe de Visegrad à l'Est l'ont retoqué. On peut être évidemment opposé au concept, mais le fait est là, il y a une incohérence fondamentale à voter pour des listes nationales dans un scrutin européen. C'est un peu comme si, je sais pas, on élisait des maires à la présidentielle. On joue pas au football avec un ballon de rugby. Tant que les listes seront nationales, leurs compositions seront le fruit de petits marchandages nationaux et les débats seront nationaux. En fait, c'est tout bête. Jusqu'à présent, les élections européennes, ça n'existe pas.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, on votera quand même le 26 mai, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Bonne soirée, ne changez rien.